Bonjour. J'ai soif, vous avez soif. Et j'espère que ce que je vais vous apporter ce matin va vous désaltérer. Même si de prime abord, la boisson que je vais vous servir semble peu agréable au goût. Je vais vous parler de la haine. La haine est un poison. Donc c'est... Et pourquoi vous parler de ça aujourd'hui ? Parce que nous reprenons sur les recommandations de nos anciens, les études de l'évangile de Jean. Nous avions arrêté au mois de juin, nous étions stoppés à la fin du chapitre 6, et là nous commençons au chapitre 7. C'est quelques versets qui sont courts, qui sont des versets de transition. On ne s'arrête pas souvent dessus. Et lorsque je les ai lus, j'ai eu beaucoup de difficultés, à part faire une paraphrase qui ne me semblait pas pertinente pour moi-même, donc j'en ai conclu pour vous, je ne savais pas comment aborder ce texte que nous lirons plus tard. Et puis, dans ce texte, en fait, un sentiment transparaît, c'est la haine. Et j'ai voulu... non pas du tout faire une étude thématique, parce que je sais que ce n'est pas le but du jour, mais simplement arriver à ce chapitre 7 à travers une réflexion sur cette haine qui, du coup, va mettre en valeur les versets que nous lirons dans le cours de cette prédication. Pierrette a dit qu'on vivait dans un monde difficile. Alain a repris la même idée. Pourquoi est-il si difficile ? Parce qu'il est haineux. Hier, j'étais au cinéma voir le film Le Majordome. Je ne sais pas si vous avez entendu parler sur ce noir américain qui a servi à la Maison Blanche, qui était ce qu'on appelle un nègre domestique, qui a servi 7 présidents de suite, de Eisenhower à Reagan. Et c'est un film fort, surtout qui montre comment cet homme a traversé, avec les États-Unis évidemment, il n'en est que le symbole, toute la haine raciale entre les Noirs et les Blancs, mais qui a été à un point absolument épouvantable, qui heureusement, avec Obama, on peut dire que symboliquement ça s'est calmé, même si ce n'est pas aussi simple que ça, mais haine raciale qui continue dans le monde entier. Ce matin, en venant en voiture, il y avait une interview sur Europe 1 de Philippe Geluck, qui parlait de son nouveau livre « Le chat et Dieu ». Auteur, Philippe Geluck, et Dieu. Et pendant 5 minutes, il a, pourtant c'est un homme intelligent, plutôt drôle, il a délivré un message de haine à l'encontre de la création, relayé par la journaliste. Ils riaient chacun de leurs bons mots. Alors c'était pas la haine physique comme celle dont j'ai pu parler pour le film Le Majordome, mais c'était une haine intellectuelle qui était d'une puissance terrifiante, d'autant plus qu'elle était cachée sous un discours policé et qui se voulait tout à fait politiquement correct. Troisième type de violence auquel on a pu assister ces temps-ci, vous avez vu ces pauvres gens qui viennent d'Afrique, qui ont péri sur leur bateau en Italie, là, pour qu'ils viennent jusqu'ici, pour essayer de se sauver, quelle haine ils devaient avoir en eux, haine de leur monde à eux, qui était un monde raté, mais aussi jalousie, envie, presque haine de nous, de notre monde occidental qui tient à peu près la route et dont ils voulaient profiter, mais dont sans doute, avant d'en profiter, ils ont aussi au fond d'eux-mêmes l'espèce de ressentiment que ça soit si difficile pour eux d'y goûter, tellement difficile que 300 d'entre eux en sont morts. Donc, cette haine, elle est partout, elle est omniprésente, elle dirige le monde, je ne vous apprends rien. Dans la Bible, elle est présente dès le début. C'est traversé de morceaux de haine comme ça. Ça commence avec Abel et Caïn. La haine de Caïn pour Abel qui a été mis en avant par Dieu. Joseph et ses frères. Non. Je ne vais pas essayer de tout vous lire parce qu'il est déjà assez tard. Je vais vous dire quelques petits extraits simplement. Pour montrer que le mot, ne serait-ce que le mot lui-même, est déjà présent. Genèse 37, 3. Donc, les frères qui en veulent à Joseph d'être le préféré de leur père. 37:3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ensuite, Ésaü et son frère Jacob. Vous pouvez lire ça dans Genèse 27:4-1. Saül et David. Au point que Saül, plusieurs fois, prend la lance, plaque David contre le mur et veut l'assassiner. Tellement il est plein de haine pour lui, parce qu'il est plus aimé par le peuple que lui, le roi officiel. On peut aussi, dans le Nouveau Testament, Paul et les chrétiens, Actes 8:3, tout le mal avant d'être converti, quand il est encore Saül, et qu'il fait des choses absolument épouvantables aux gens qu'il pourchasse. Actes 8:3. Or Saül ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et puis, les choses s'inversent. Une fois que Paul est converti, ce sont les Juifs qui, avec lui, sont extrêmement remplis de haine et cherchent à plusieurs occasions de le tuer en le lapidant, en essayant de le lapider. Voilà. Je ne vous apprends rien, mais c'est intéressant de savoir, de se souvenir que tout ce livre de la Bible, bien sûr, il y a le message d'amour de Dieu, de Jésus, mais il est baigné d'abord dans un monde qui est un monde de haine, ce monde dans lequel nous vivons, nous, et qui n'a guère changé depuis les écrits bibliques. Dans la vie de Jésus même, la vie de Jésus ne sont que des suites de moments de haine qui vont le poursuivre jusqu'à sa mort. Premier moment, le plus terrible, alors qu'il n'est qu'un enfant, qu'il n'est rien du tout, un bébé, c'est le massacre des innocents par Hérode. Rendez-vous compte le niveau de haine qu'il faut atteindre, d'avoir tellement peur d'être supplanté par quelqu'un, tellement de détester qu'on va faire tuer tous les enfants en se disant « dans le tas, il y aura celui que je déteste et qui donc ne pourra pas me supplanter ». Et puis, nous arrivons à l'évangile de Jean, car je vais profiter de ce moment ensemble, avant d'arriver au chapitre 7, pour justement refaire très très rapidement un petit bilan de tout ce que nous avons vu depuis que nous avons commencé ces études, pour se remettre bien dans la situation au moment où nous aborderons ce chapitre 7. Dès le début, l'apôtre Jean parle de la haine des hommes pour la lumière. Jean 1, 5, 10, « La lumière brille dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. » Si le monde ne l'a pas accueillie, si le monde ne l'a pas connue, c'est par haine. Mais petit à petit, cette haine de la lumière va être expliquée un peu plus tard. Jean 3, 19, 20. On va avoir une explication par rapport à ce prologue-là. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Donc ce prologue de Jean est expliqué deux chapitres plus tard par cette haine viscérale que les hommes ont, que nous avons eue, que nous avons peut-être encore, car quand je parle de la haine, évidemment il y a la haine que l'on voit à l'extérieur, mais c'est aussi la haine que nous recevons et qui nous fait souffrir, mais c'est aussi parfois, si nous sommes lucides avec nous-mêmes, la haine que nous avons, que nous transmettons, que nous essayons de canaliser, mais que nous pouvons éprouver. Et donc petit à petit, cette lumière dont parle l'évangéliste dans son prologue va rentrer dans la vie des hommes. Et en même temps, ça nous permet très rapidement de revoir ce que nous avons étudié les mois précédents. L'annonce de Jean-Baptiste, qui annonce le Sauveur qui arrive. Les noces de Cana, où de l'amour est donné à travers ce vin qui est distribué généreusement. Même les vendeurs du temple qui sont chassés. Cette le fait que les vendeurs soient là, c'était un espèce de rejet, en fait, de la divinité du lieu qu'ils occupaient, une forme de haine que Jésus essaye de chasser. Nicodème arrive, rempli de la haine de tous les pharisiens contre Jésus, et lui essaye de passer à travers et vient demander à Jésus des informations pour lui dépasser cette haine qu'on essaye de lui inculquer. La Samaritaine, les guérisons du fils de l'officier, la guérison du paralytique à la piscine, tout ça, je ne vais pas y revenir évidemment, ce sont tous les moments que nous avons vus où Jésus met en place un discours, des actes qui, dans ce monde de haine qui était le sien et qui est encore le nôtre, permet d'allumer quelques lumières et de mettre de l'espérance dans le cœur des hommes. Mais cette lumière qu'il met à petite dose pour quelques personnes, à des moments précis, prend déjà trop de place et provoque déjà une haine terrible, alors que lui n'est que dans le bien. Et on le voit dans Jean 5, 16-18, donc qui avait été étudié, mais que je ne peux résister au plaisir de vous relire. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat, par des guérisons. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Donc, cet environnement est de plus en plus prégnant autour de notre Sauveur, de cet homme seul qui, quoi qu'il fasse, où qu'il aille, reçoit de la majorité des gens un retour haineux. Et Jésus explique ça, toujours au chapitre 5, donc au verset 42 à 44. « Mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Il y a des faits, il y a un constat. La haine est là parce qu'ils refusent la gloire de Dieu, qui pourtant est au milieu d'eux. Ce qui est quand même une chance assez extraordinaire qu'ils ne saisissent pas. Et nous arrivons à la fin du chapitre 6, après ce très rapide survol que je viens de vous faire, au premier symptôme précis de la haine sur Jésus. Jusqu'ici, c'était des gens qui parlaient, c'était des menaces, mais dont il n'était pas la victime directe, si je puis dire. En Jean 6, verset 66, au passage, ça fait 666. C'est un détail, hein, ça, je n'en tire aucune conséquence, mais la première attaque frontale, si je puis dire, elle arrive au 666. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Le premier abandon réel, il est là. Et il en est directement la victime. Parce que c'est des gens qui le suivaient, lui, donc des gens à qui il avait créé des liens, et qui l'abandonnent. Et deuxième symptôme de la haine qui va le toucher directement, au bout de 6 chapitres et de donc toutes ces années, c'est la trahison. Toujours le chapitre 6, versets 70-71. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Donc de toute cette haine généralisée dont le monde est plein, dont Jésus, au fur et à mesure, donc, sentait les effets qui se mettaient en place, là, à la fin du chapitre 6, pour la première fois dans Jean, parce que le massacre des innocents, ce n'est pas dans Jean, et il est vraiment concerné, personnellement, comme vous et moi, on pouvait être concerné si quelqu'un nous abandonne ou si quelqu'un nous trahit. Et nous arrivons à notre chapitre 7, qui était à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, Je vais vous les lire verset par verset. C'est pour ça que j'ai demandé à José de ne pas les inscrire, pour qu'on reste concentré sur chaque verset. Le chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc la haine, maintenant, il en prend tellement conscience que pour la première fois, il va refuser d'aller quelque part, parce qu'il se sait physiquement en danger. Après l'abandon et la promesse, entre guillemets, de la trahison, les menaces qu'il a reçues dans les chapitres suivants, là, sont vraiment maintenant effectives. On sait qu'elles se mettront en place un peu plus tard. Et là, il décide de lui-même de ne pas y aller. Cette haine-là limite la liberté de Jésus. Même lui, le Tout-Puissant, à un moment, doit prendre dans ce monde qui est le nôtre la décision de se limiter pour un temps, je vous rassure, mais là, il est forcé de l'apprendre. Ça peut être aussi, nous, quand parfois on va ressentir des endroits ou des moments ou des lieux qui peuvent être dangereux, non pas parce que directement on serait agressé, mais parce que l'ambiance qui serait ou les gens qu'on pourrait y rencontrer pourraient nous mettre à mal par leur haine directe ou par le biais de l'indifférence ou par les petites blagues dont tu parlais, pourraient nous mettre en danger. Si Jésus, de lui-même, s'est retiré un moment, a refusé d'aller là où il aurait dû aller parce que c'était sa liberté de créateur, n'hésitons pas, nous aussi, parfois, à dire non. Trop dangereux, pour le moment. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas suffisamment fort. Je mets de côté. Verset numéro 2. Oh, je suis désolé. Or, la fête des Juifs, celle des Huttes, était proche. Donc, c'était à l'occasion de cette fête-là qu'il était censé retourner à Jérusalem. Quelle est cette fête des Huttes ? Ce n'est pas n'importe quelle fête. Donc, il y a 5 fêtes chez les Juifs qui sont très très importantes, et dont celle-ci, qui est sans doute une des plus belles, parce que c'est la fête de la moisson, la fête de la vendanges. Et il y avait une tradition qui était donnée en Lévitique 23, 39, 44. Je vous le lis. Alors, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 5 jours. 7 jours. Le premier jour sera un jour férié et le 8e sera un jour férié. En fait, c'est 7 plus 1. On en reparlera plus tard. Vous prendrez le premier jour du fruit de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous vous réjouirez. C'est une fête de réjouissance. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle la fête des huttes ? Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc c'est une fête de souvenir de la libération d'Égypte. Et c'était aussi la fête de la vie qui se mettait en place, puisqu'on fêtait les moissons, on fêtait les vendanges, qui était la promesse de la nourriture pour les mois à venir. Et Jésus refuse d'aller à cette fête-là. Pourquoi refuse-t-il d'aller à cette fête-là ? Eh bien, c'est marqué dans Amos 5, 21, où il est dit, l'Éternel parle, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Éloigne-moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. » Jésus ne monte pas, parce qu'il sait très bien que cette fête, telle qu'elle est pratiquée par les Juifs alors, va être une fête hypocrite. Ça devait être une fête de la vie, et en fait c'est une fête de la mort, parce qu'elle est déjà dans l'ancienne alliance, elle n'est pas dans les nouvelles qui se met en place, et elle perpétue dans l'esprit des gens une attitude, une tradition, une religiosité qui ne correspond plus du tout à ce que lui veut mettre en place. Et il refuse de monter à cette fête qui aurait dû être la fête de la vie, car lui sait que c'est la fête de la mort, d'autant plus qu'il est attendu là-haut pour être arrêté, et comme on l'a vu plus tôt, pour être mis à mort. Ensuite, verset 3, donc, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des huttes, était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agite en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Donc là, la haine va jusque dans sa famille. Ses frères le chassent, partent. Ses frères se moquent de lui. Si tu fais ces choses conditionnelles, et il est dit, ses frères ne le croient pas. Et plus tard, on verra dans Luc, dans Marc 3:20, que même à un moment, sa famille va venir, mais pas au moment de cet épisode-là, pour venir, tu dis n'importe quoi, tu es fou, on va t'enfermer. Donc la haine qui était générale dans le monde, Jésus, petit à petit, la prend vraiment personnellement jusqu'au sein d'abord de ses disciples, puis des gens qu'il a encore plus choisi les 12, puis de sa propre famille. Alors, à ce moment-là, à cette attaque-là de ses frères, Jésus répond la chose suivante, et c'est les versets 6 et 7. Et Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. Le monde ne peut vous haïr, il a de la haine pour moi, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Verset 6, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. » Quelle phrase terrible! Quelle condamnation de leur mode de pensée, de leur mode de vie! Et quelle condamnation pour nous-mêmes, si on se le met à notre propre sauce, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour toi, pour moi, le moment est toujours opportun. » De quel moment parle-t-il ? On peut aller dans Tite. Je ne sais pas ouvrir, désolé. Est-ce que quelqu'un a Tite 3 ? Est-ce que je le... Tite 3, verset 3. Quelqu'un là ? Voilà, ah bah très bien. Merci. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Quand il dit pour vous, le moment est toujours opportun, pour nous, le moment est toujours opportun, parce que nous, notre nature première et essentielle, c'est celle-ci. Et que dans cette description qui est faite de ce qu'est notre vie au quotidien, si on n'a pas la conscience de Dieu et son amour pour nous sortir de ce pétrin-là, c'est que on ne peut pas être mal à aucun moment, puisqu'on vit dans un monde de haine qui vit comme ça. Donc si on vit comme lui, notre moment à tout est toujours le bon pour se sentir à l'aise dans ce monde-là. Et au verset 7, il donne la conclusion, le monde ne peut donc vous haïr, puisque vous êtes comme le monde, puisque le monde est la haine, et que vous-même, vous fonctionnez consciemment ou inconsciemment dans un principe de haine, à travers tout ce qu'on a vu dans Tite, le monde ne peut pas vous haïr, vous êtes comme un poisson dans l'eau, sauf que l'eau est très très polluée, mais on ne s'en rend pas compte, on ne veut pas s'en rendre compte. Et ensuite, lui donne sa clé à lui. Il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Car la lumière dont on parlait au début, la lumière, elle éclaire tout. Elle éclaire nos ténèbres. Quand on lit le texte de Tite, il y a forcément des choses qui résonnent en nous. Pas tout, j'espère, mais certains moments pour lesquels on se dit « tac, ça c'est pour moi ». Cette lumière-là, elle nous éclaire. Elle nous fait du mal parce qu'elle va nous obliger à chasser ces ténèbres qui sont dans le monde, qui nous entourent, mais dont nous sommes aussi, quelque part, les participants. Et au verset 8, il va rendre, en quelque sorte, pas leur moquerie, parce que Jésus n'est pas moqueur, mais il va aller au bout de leur raisonnement à eux. « Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. Allez-y. Allez vous vautrer dans ce monde-là. Allez faire semblant. Allez être content à vous chercher chacun votre propre gloire sous le paravent d'une fête qui n'a plus le sens qu'elle aurait dû avoir. Moi, je ne peux pas y aller parce que cette lumière que je vais apporter là, elle va faire tellement un scandale que je risque pour le moment d'être mis de côté, d'être mis à mort avant d'avoir pu révéler toute la lumière que je dois révéler. Encore une fois, il se retire. Et j'aimerais qu'on revienne une fois sur Amos, qu'on nous avons lu tout à l'heure, parce que un peu plus tôt, avant qu'il décrive, donc c'était 5, verset 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » On désire tous le jour de l'Éternel. On croit que ça va être un jour de joie, de fête. Oui, dans un deuxième temps, mais pas dans un premier temps. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière. » Et juste après, il dit « Je hais, je méprise vos fêtes. » Le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière, parce que dans un premier temps, même en éclairant ce qu'il est, ce qui va éclairer, c'est d'abord tous les ténèbres qui sont les nôtres. Et seulement après, dans un deuxième temps, il y aura disparition de ces ténèbres pour qu'il n'y ait que lumière. Alors, nous arrivons au verset 9, et après avoir dit cela, il resta en Galilée. Donc il est logique jusqu'au bout. Il use de son droit au retrait, si je puis dire. Il laisse les hommes se débrouiller dans ce qu'ils ont créé, dans ce monde de haine, qui date de la Genèse. Et lui ne va pas encore s'y plonger, parce que, non pas qu'il ne soit pas prêt, mais parce que les hommes ne sont pas encore tout à fait prêts à ce qu'il aille jusqu'au bout de sa mission. Et nous arrivons aux trois derniers versets qui étaient à étudier. « Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. » Ça, c'est quand même extraordinaire. Jésus se cache. Jésus, qui est la lumière, qui est le Tout-Puissant, il se cache. Et à la limite, je ne dirais pas qu'il est menteur, je ne me permettrai pas, mais il a dit « je ne monterai pas », mais finalement, il y va. Alors, il n'a pas dit qu'il ne monterait pas du tout. C'est pour ça qu'on veut s'en tirer. Il a dit « j'y vais en montant en mon heure ». Il monte quand même et il se cache. Jésus est obligé de se cacher. Il met sa propre lumière sous le boisseau. Mais quelle honte! Quelle honte que notre monde fait que Jésus est obligé de se cacher pour exister. Que dans des tas de pays qui ne sont pas les nôtres, les chrétiens sont obligés de se cacher pour exister. Quelle honte que nous, je dis notre honte à nous, dans tous nos milieux professionnels et autres, voire parfois même familiaux, on cache Jésus. Mais est-ce notre temps? Est-ce notre décision? À ce moment-là, ce n'est pas la bonne. Ou est-ce la décision de Jésus qui dit chaque chose en son temps? Pour le moment, cache-moi un peu, laisse-moi en secret, jusqu'à ce que les gens à qui tu dois parler soient prêts. à nous de savoir faire la différence entre ce qui est de notre volonté de cacher et de celle qui vient de Dieu. Ça me fait penser, vous savez, à la guerre du feu. Vous avez vu ce film? Ils sont là, ils font un feu, ils le tiennent dans une petite coupelle, et sous les orages, les bagarres, tous les cataclysmes, il faut qu'ils tiennent ce feu, cette flamme allumée, parce que si elle s'éteint, c'est la catastrophe, ils replongent dans les temps obscurs. Évidemment, voilà. Jésus, à ce moment-là, lui-même, en tant qu'être humain, il est une toute petite lumière, toute seule, abandonnée déjà par pas mal de gens, déjà condamné à mort par contumace, en quelque sorte. Et lui-même obligé de se cacher, mais pas pour se sauver lui, il est obligé de se cacher pour qu'on puisse être sauvés, nous. C'est comme ce livre dont je parle une fois tous les 4 ans, C.S. Lewis, Le silence de la terre. Je le redis rapidement, c'est C.S. Lewis, donc c'est un grand théologien anglais qui a... Et Le silence de la terre, c'est un faux livre de science-fiction. La théorie, c'est que la terre est enveloppée depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, d'une immense carapace physique, voilà, dans, à l'intérieur duquel donc on est la Terre, et la Terre fait n'importe quoi. C'est tout ce qu'on a décrit dans Tite. Et ce que fait Dieu, c'est qu'il creuse un minuscule trou dans cette carapace qui recouvre tout le globe terrestre, juste pour que la lumière de Dieu puisse passer. Que donc Jésus a réussi à se glisser par ce minuscule trou, tomber dans un coin de Galilée, et à partir de là, de l'intérieur, réussir à faire exploser toute la carapace pour que toute la lumière de Dieu inonde à nouveau la terre. Là, on en est à ce point-là, un point minuscule. Il est seul, caché, il devait être dans une boutique de Jérusalem, et 2-3 personnes qui peut-être le mettaient de côté. Je ne sais même pas si quelqu'un était au courant de sa présence. Mais nous devons avoir cette sensation-là dans notre vie de tous les jours. Pas croire que parce qu'il y a des églises, etc., il y a une grande lumière. Il n'y a rien. Il y a peanuts. C'est la haine partout. Et nous, on est des petites têtes d'épingle qui réussissent à passer parce qu'il y a quelques trous qui sont mis. Mais quelle responsabilité, nous tenons à bout de bras cette petite bougie toute tremblante. À nous de faire en sorte, où qu'on aille, de la préserver, et si on ne peut pas la préserver, de la passer à quelqu'un qui va la préserver. Et si on sent qu'on ne pourra pas la préserver, de ne pas aller dans l'endroit qui va nous l'éteindre. C'est ça que nous dit ce texte-là. Et le fait que Jésus se cache, mais il n'est pas le premier. La Bible était remplie de haine, mais la Bible aussi remplie de gens qui se cachent pour sauver l'essentiel. Alors j'en ai sûrement oublié, mais il y en a quelques-uns qui viennent, c'est David, qui se cache dans une grotte pour échapper au roi. C'est Nicodème qui va voir Jésus en cachette pour échapper à la colère de ses collègues. C'est Marie et Joseph qui finalement prennent le bébé Jésus et qui le cachent en Égypte pour qu'il échappe au massacre d'Hérode. C'est même Paul qui va se cacher une fois dans un panier pour survivre aux attaques des juifs qui voulaient le lapider. Tout le monde, nous tous, nous sommes des dépositaires de cette lumière minuscule, telle que lui l'a représentée et l'a vécue. Et nous avons le devoir d'éclairer, mais parfois aussi le devoir de nous cacher. Mais pas nous cacher pour fuir, nous cacher pour être plus efficace ensuite. Et j'en viens aux 2 derniers versets. Les Juifs le cherchaient pendant la fête, ils disaient « Où est-il ? » Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », mais d'autres disaient « Non, au contraire, il égare la foule ». Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs. C'est comme quand Charles de Gaulle est parti à Baden-Baden. En 68, on s'est dit, tiens, De Gaulle est perdu, on a perdu, donc les gens parlaient, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est parti, et est-ce qu'on prend le pouvoir, est-ce que c'était un homme bien finalement, ou bien est-ce que c'était un dictateur. Alors, toute proportion gardée, les gens discutent de cette non-apparition. Comme quoi, parfois, ne pas être présent peut aussi, si on a fait le boulot avant, initier quelque chose, une réflexion. Vous êtes invité, vous avez été invité à une fête, vous y êtes allé, et manifestement, c'était quelque chose... ça vous a mis en danger, vous, et votre foi. Alors, il ne s'agit pas d'être pudibond, c'est pas ça, mais c'était pas votre place. 8 jours après, la fête a de nouveau lieu. Tout le monde y va, sauf vous. Tiens, il n'est pas venu. Peut-être que ça peut créer quelque chose. L'absence, se mettre de côté, se mettre en secret, comme il est dit, peut aussi provoquer une réflexion, induire des questions. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui discutent, ils ont deux avis. Il y a les pour et les contre. Comme nous, si on commence à parler de Dieu, de Jésus, « Ah ouais, non, c'est un homme bien. » C'est marqué. C'est un homme bon. Alors, c'est pas n'importe qui. Il a quand même fait des choses. Il a mis une morale très haut. Ou d'autres disent « Non, non, il égare la foule. » Il a créé des religions totalement stupides qui font que les gens sont bloqués complètement. Ça, c'est absolument contemporain. Mais vous remarquez qu'à aucun moment, il y en a un qui dit « Moi, je crois, moi, je ne crois pas. » Ce n'est pas marqué. C'est-à-dire qu'on est encore dans le discours raisonné, voire philosophique au sens le plus vague du terme, mais on n'est pas du tout dans « Je crois, je ne crois pas. » On ne parle pas de foi. Et pourquoi on ne parle pas de foi ? Parce que dans ces personnes-là qui disent « C'est un homme bon », alors pas dans les autres qui égarent, mais forcément, il y en avait qui avaient assisté au miracle. On est à Jérusalem, il y a eu le coup de la piscine, etc., du paralytique. Pas n'ose dire, mais moi je crois en lui. Non seulement il est bon, mais je crois. C'est dit dans le dernier verset qu'on m'avait demandé d'étudier. Donc personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. C'est la peur qui fait taire les gens. C'est la peur qui nous fait taire. La peur du ridicule, la peur du jugement, la peur de paraître rétrograde, absolument le discours ce matin que tenait Philippe Gueluc à la radio, alors c'était vraiment, les pauvres gens qui croyaient à la Bible telle qu'elle étaient vraiment des arriérés absolus. Toutes ces peurs-là, elles nous tiennent, plus d'autres, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'apparence, vous avez fait le tour, c'est très facile à comprendre. La peur de quoi ? D'être rejeté, détesté, haï. Si on pousse le bouchon très loin et qu'on affirme vraiment des choses sur notre foi, qui vont même à certains moments nous dire ça non, ça oui mais ça non. Ah, ça peut aller jusqu'à la haine, sans aucune difficulté. Et pourquoi du coup, alors on fait marche arrière parce qu'on a besoin d'amour ? On a tous besoin d'amour. Que celui qui n'a pas besoin d'amour lève la main. On est né comme ça, on a besoin de cet amour-là. Parce qu'il nous vient, cette demande, elle nous vient de beaucoup plus haut. Alors, quel amour on choisit ? On choisit l'amour de Tite ? On choisit l'amour du monde qui nous entoure ? Ou dans la haine, on arrive à s'arranger ? Si tout le monde est d'accord, si tous les chats sont gris, un gris de plus, un gris de moins, tout le monde va s'entendre. On choisit l'amour du monde, on ne choisit pas l'amour de Dieu. Parce qu'il est dangereux, parce qu'il peut susciter la haine, parce qu'il nous met en danger. Mais quel tort avons-nous ? Je crois que c'était David, qui, je ne sais plus très bien, qui à un moment a dit, il a parlé de ténèbres et le fait de ne pas accepter l'amour de Dieu, c'était quelque chose de grave. Regardez, 3 versets. Exode 20, 5. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. On ne veut pas l'amour de Dieu, on préfère l'amour des hommes, c'est un choix. Mais il y a un prix à payer, parce que Dieu est parfait. Il y a des choses qu'il ne peut pas supporter, parce qu'il est parfait. Deutéronome 32, 41. Si j'aiguise l'éclair de mon épée Et si ma main saisit le droit, je tirerai vengeance de mes adversaires et je rendrai la pareille à ceux qui me haïssent. Entendons ça. Et le plus terrible, le plus fort, c'est un proverbe. Pourtant, les proverbes, on les lit. Je ne l'avais jamais, je l'avais lu, mais je ne l'avais pas enregistré sous cette forme-là. Et là, grâce à cette étude, je l'ai vraiment bien entendu. Proverbe 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. La boucle est bouclée. Ce monde de haine, c'est un monde de mort. Et nous, on ne tient que parce que lui, il est venu. Il a supporté tout ce dont j'ai déjà parlé de haine collective et personnelle, jusqu'à finir sur la croix, pour qu'on soit en position de ne pas le haïr parce qu'on l'a rencontré et que donc on est basculé de la mort à la vie. Cette fête des huttes qui était une mort devient une fête de la vie. Notre fête à nous, nos moissons, nos vendanges, de l'amour de Dieu que l'on récolte. Et pour conclure, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là, Dieu ne peut pas se cacher éternellement. Revenons à Jean, alors je m'excuse pour ceux qui prendront la suite, on ne peut pas s'arrêter au verset 13, parce que là c'est une porte qui se ferme, et ce n'est pas possible, Dieu ne ferme pas des portes. Parfois il les bloque un peu, mais c'est toujours pour les ouvrir plus tard. Que fait-il au verset 14? Donc juste après, on était déjà au milieu de la fête, quand Jésus monta au temple et il enseignait. Ça y est, fini de se cacher maintenant. Et jusqu'à la fin, j'en appelle aux théologiens supérieurs de cette assemblée, je ne crois plus que Jésus se cache un moment. Je ne crois plus que Jésus fuit un moment. À partir de maintenant, il va aller au bout de ce qu'il doit faire. Tous les rideaux sont ouverts, il sort sa petite lumière, et quelles que soient les hostilités qu'il va rencontrer, il va la promener, et s'il peut en faire de temps en temps un énorme projecteur, il ne va pas se gêner. Et donc il parle au temple, même au jardin des Oliviers, où là, il était tellement mal, il aurait pu se cacher, il faisait nuit, il ne savait même pas qui venait chercher, il se mettait derrière un olivier, il était gagnant. Non, il y va, c'est moi. J'y vais. Au verset 13, je reviens, personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. Lui, à partir de maintenant, il va parler ouvertement de lui-même. Comme on doit le faire avec les quelques conditions que Jésus lui-même nous donne et dont j'ai pu parler. Et on va arriver au verset 37, puisqu'on a commencé pour la fête des huttes. Au verset 37 de ce chapitre-là, c'est la fin de cette fête des huttes. Vous vous souvenez, je vous avais dit dans Lévitique qu'il y avait 7 jours, puis il y avait le 8e jour, qui était un jour de grande célébration. Alors là, c'était la grande fête, les réjouissances finales. On sortait des huttes et c'était vraiment le grand moment de bonheur et de réjouissance dont il est parlé. Le dernier jour, donc entre-temps, Jésus a pris la parole au temple. Il a dit les choses, il s'est montré, il a assumé. Verset 27, et ça va rejoindre. Avez-vous soif? Regardez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria. Il est debout, il n'est plus caché. Il se montre et il ne murmure pas, comme il dit régulièrement, les uns murmuraient. Il s'écrie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, j'aimerais vraiment que l'on conclue sur cette image d'un Jésus vivant dans un monde de haine, comme nous. D'un Jésus qui va être abandonné, trahi, rejeté par sa famille, qui va prendre la décision de ne pas aller à un endroit parce qu'il sait qu'il risque sa peau et que ce n'est pas le moment. Qui va en secret, parce que c'était le temps du secret, et qui, à un moment précis, va dire maintenant, stop. Maintenant, je me mets debout. Et à ce 8e jour de la fête où on ramasse les moissons et les vendanges, je suis debout. Et je crie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Que dans tout le temps qui nous reste à vivre, j'espère le plus long possible, au moins pour cette semaine, quand vous serez environné par la haine, des nouvelles, des informations, des gens qui vous sont proches, quand vous recevrez personnellement de la haine, de gens qui ne vous comprennent pas, qui vous jugent, qui vous font du mal, pour X raison, quand vous-même, vous aurez des sentiments de haine vers des gens et que vous aurez du mal à les contrôler, revenez à cette image, représentez-vous de Jésus debout dans votre cœur et qui s'écrie à la face des gens qui vous font du mal, de ce monde de haine que vous ne comprenez pas, mais à votre face à vous aussi, qui êtes prêts à vous faire du mal par cette haine qui vous dévore. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.